Ben, ils sont morts, spirituellement, on s'entend. Oh, ils ont continué à gambader dans le jardin. Hein? Et alors, nous aussi, on gambade. Mais la plupart du temps, on est mort. Il faut se relever de la maison des morts, comme dit Jésus. Adam devait requérir de son épouse la parfaite justice dans ses pensées et dans ses actes, et la châtier avec mesure. Mais il ne l'a pas fait. La colère est une force contre l'injustice. Pour l'exercer, il faut une parfaite régulation de la raison. C'était possible à Ève et à Adam. Et pour, avant la faute, il n'y avait aucune difficulté à user de la raison. Pourquoi ne l'ont-ils pas utilisée? Parce qu'ils n'avaient pas mangé de tous les arbres du jardin comme ils devaient le faire. De tous les arbres, tu mangeras, c'est un ordre. Ils auraient eu la force de résister aux tentateurs. Car il faut se nourrir de toute parole venant de la bouche de Dieu, et le sens de la création figuré par les arbres était cette nourriture, qu'ils n'ont pas absorbée avant d'avoir voulu comprendre de façon totalement illogique leur propre intelligence. La colère a manqué à Adam, car il devait mobiliser ses énergies pour s'instruire. Ce qui est dit, puisqu'il est placé dans le jardin, le Havdav et le Shomra, pour la, c'est au féminin, hein, pour la travailler et la contempler. Avant la faute, avant la chute. Donc il avait un travail à faire. Eh bien, il devait donc s'instruire, parce que dans le travail, on apprend. C'était justice vis-à-vis de lui-même, parce qu'il a été créé parfait, c'est-à-dire dans la plénitude de ses moyens humains. C'est pour ça qu'on nous le montre. Adulte, tout fait. On ne voit pas un bébé. Adam, ce n'est pas un bébé, c'est un homme fait. Et Ève aussi, la même chose. Il devait alors agir et inventer dans le domaine du bien. Car il y a beaucoup de choix dans le bien. Très peu dans le mal entre nous. Son châtiment immanent, ce qui corrige le fait qu'il n'a pas encore accompli son œuvre, sans qu'il y ait aucune faute en cela, c'est l'ordre reçu de Dieu de travailler le jardin et de le contempler, et non pas de le garder à Chomer. C'est la sentinelle. Et il ne garde rien, mais il regarde. Acquérir la maîtrise en acte des formes du monde. Travailler était un acte de justice qu'il devait requérir de lui-même en acceptant une certaine souffrance avant la chute. De la chose non encore réalisée. Donc il devait être dans l'espoir. Ce désir, le désir de ce qu'on n'a pas encore, est une souffrance. Même pour le bien, il faut accepter de souffrir pour le bien. Il a voulu jouir immédiatement de la connaissance universelle. Eh bien, l'irascible est bien notre faculté de mobiliser et combattre pour obtenir un bien à venir ou un bien difficile. La colère sainte lui a donc fait défaut. L'imitation de Dieu requiert une colère, car Dieu est dans la béatitude parfaite, mais il crée sans nécessité pour partager sa béatitude. Adam est parfait en tant que créé par Dieu. Mais il doit imiter Dieu et sortir de sa perfection originelle pour imiter Dieu en créant des formes que la contingence du monde permet de faire sortir du néant, devenant ainsi parfait comme Dieu est parfait, c'est-à-dire au-delà de la béatitude. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est une parole de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la perfection naturelle pour imiter Dieu créateur qui sort de sa béatitude absolument librement. Ça requiert une mobilisation de toutes les énergies, et c'est la véritable énergie de la colère. C'est pas méchant, mais nous on est tellement habitués au côté méchant de la colère. Non plus de la sainte perfection originelle, mais de la divine perfection du Dieu créateur. Eh bien, nous pouvons imiter Dieu. la colère de Dieu, maintenant, se révèle du haut des cieux contre toute impiété, toute injustice des hommes. Ça, c'est Paul, Shaul de Giscala. C'est Paul qui le dit. Contre quoi est la colère de Dieu? Contre toute injustice des hommes, évidemment. Qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce qui peut se connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18-19. Et Dieu manifeste sa présence dans toute colère, juste ou injuste. Car toute colère est d'abord une requête de justice. Mais d'où peut bien venir une chose aussi subtile chez des gens aussi peu cultivés et aussi grossiers que nous sommes, quand on est un peu lucide? Comment le sentiment inné de la justice est-il inscrit en nous? Parce que ça fait jouer cela. Le gamin qui tape du pied à la colère, c'est au nom d'une justice. Mais d'où a-t-il appris ça? Je finis par là. C'est la preuve manifeste que nous avons une âme. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent en cause l'âme. Ils voient des mécanismes psychologiques. Hein, un gargouillis neuronal. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais d'où tire-t-on notre idée de justice? Alors que nous sommes baignés dans la justice, mais d'où vient notre sentiment d'injustice? Bien, je dis que l'émotion du corps, due à une fonction de l'âme inconsciente, montre d'une démonstration totale le fait que nous avons une âme qui sort des mains de Dieu. C'est la colère qui en est la preuve. La colère innée en tout homme témoigne que notre âme vient de Dieu, toute requérante de justice, vibrante même dans sa déchéance orgueilleuse de la dignité de l'acte qui la crée. Même la mauvaise colère convainc l'homme de son péché et de la bonté de Dieu. Qu'il soit glorifié à jamais. Je ne vous ai pas dit la moitié de ce que j'avais préparé.
C'est pour ça qu'il y a des places pour les questions et je crois que non.
Deux points. Le premier, la justice. Elle a toujours fait peur. J'ai toujours l'impression qu'elle va s'abattre. Et quand j'étais enfant, tout petit enfant, je détestais la justice. Mais cette justice immanente qu'on essayait de m'imposer, qui se traduisait par des châtiments corporels, par des punitions. Et d'ailleurs, dans la dernière lettre, j'ai toujours été surpris de voir que le mot juste en hébreu se disait sadik.
Non.
C'est d'ailleurs,
on peut le prononcer. Vous savez.
Non, mais c'est moi qui ai exagéré.
Oui. Vous en rajoutez. Vous êtes en colère.
Notre évêque, avec beaucoup d'humour, dans une de ses dernières lettres, a fait un jeu de mots que j'aimerais bien retrouver entre la justice. Et le sadisme,
en quelque sorte,
puisque c'est le même mot.
Non, ça n'a rien à voir, Vous savez, on peut dire bonjour avec aménité, on peut dire bonjour comme un caporal d'une armée quelconque, et ça devient une injure.
J'ai péché dans ce domaine.
Voilà. Alors évidemment, oui. Quelle est la question véritable?
Non, mais là, c'est alors la question véritable pour moi, c'est que si la justice me fait peur, je croise à la compassion. Eleos, qui est à mon avis le zéphira du plus parfait amour, et que le pape malheureusement n'a pas utilisé dans son encyclique Dieu est amour. Je lui ai écrit, il m'a répondu, mais un peu à côté. Eleos.
Eleos. Mais, oui, mais vous savez, dans la Bible, il n'y a rien de grec.
Pardon ?
Il n'y a rien de grec. Ah, voilà. Quoique, notre très saint père connaît parfaitement le grec. Oui, oui. Et il le cite d'ailleurs à l'occasion. Quand il parle d'amour, il parle aussi d'Eros. Eros et Agapé.
Bien sûr.
En hébreu, il y a un seul mot. Donc ces distinctions n'ont pas lieu d'être, à mon avis, c'est Ahava. Et alors, Dieu est amour. Mais avant de comprendre ce que ça veut dire, il faudrait comprendre ce qui nous est accessible, à savoir la justice. Et évidemment, il y a une chose qui vient moduler. Là, je traitais de la colère, c'était le sujet. On pourrait traiter de la miséricorde.
Ah, moi, je
pense à la
miséricorde.
Oui. La miséricorde, c'est Ramim. Hein, c'est ce qui se passe dans le ventre. Bon. Hein, c'est vraiment le... Alors nous, on dit on prend à cœur les choses. Nous, on a remonté tout d'un cran. Enfin bon. Ah oui, parce que comme ça, ça évacue. Là. Parce que la spiritualité, elle doit être là. Et l'intelligence dans le cœur, évidemment. Donc la miséricorde dans le ventre. Hein, avoir des tripes, quoi. Parce qu'il ne faut pas jouer de la miséricorde pour n'importe quel truc un peu sentimental, quand même. Hein. Il faut garder raison, là aussi. Mais donc, je n'ai pas traité de la miséricorde. Alors, là, je n'ai pas traité du tout. En fait, j'avais préparé beaucoup de textes sur la colère de Dieu dans l'Écriture. Pour montrer quand, c'est très intéressant d'aller voir, quand la colère de Dieu se déclenche-t-elle contre toute injustice des hommes, nous dit saint Paul. Mais il résume quand même. Les premières colères de Dieu, si j'ose dire, dans l'Écriture, c'est à propos de Moïse. Et à chaque fois qu'on dénie à Moïse son rôle de médiateur, c'est très intéressant à voir. Le premier qui met Dieu en colère, c'est Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il refuse d'être le médiateur. Il dit non, moi je ne sais pas parler, je ne vais pas, etc. Envoie quelqu'un d'autre. Bon. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait quand il lui demande d'être envoyé. Hein ? Alors nous, on fait un tas de romans là-dessus. Vous voyez, bon, c'est vrai que Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté, dit l'Écriture. Et alors, Dieu se met en colère. Donc, la colère, c'est la requête de justice. Comment va-t-il le réaliser ? Parce que si on requiert la justice, comment la réalise-t-on ? Alors, il la réalise de façon juste, évidemment. Il dit, ben, regarde ton frère là, Aaron, qui arrive. Qui vient à ta rencontre. Eh bien, je vais mettre mes paroles dans ta bouche et tu les mettras dans les siennes. Et ce qui fait que Moïse reste le médiateur, mais Aaron va être médiateur en second. Donc la médiation est un peu élargie. Et donc il va pouvoir parler au peuple. Peut-être que Moïse ne parlait pas trop bien le cananéen au peuple, parce que lui était élevé comme égyptien. Bon, ça c'est des hypothèses d'exégète. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le texte. Parce que le texte nous parle du drame profond. Et quand il y a une autre colère de Dieu, c'est quand Aaron et Myriam d'abord, un peu jalouse de son frère et de ses honneurs, contestent sa primauté. Alors, Dieu fait tout le monde, réunit tout le monde à l'attente d'assignation et rend Myriam lépreuse. Et la seule façon de guérir, c'est que Moïse s'interpose, justement, et prie Dieu de la guérir. Il la guérit. Donc Moïse est toujours soit contesté dans son rôle de médiateur, soit confirmé. Et ça, c'est très important, parce que la querelle avec Jésus, ça va être du même type. Qu'est-ce qu'on va lui dénier ? C'est d'être comme Moïse, d'abord, peut-être plus même, d'abord comme Moïse, médiateur entre Dieu et le peuple. Et évidemment, les gens sur place, il y avait un seul médiateur possible, c'était Moïse. Ils n'ont pas vu qu'il y en avait un autre possible. Alors, il faudrait démontrer la chose. C'est tout à fait démontrable. Ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs, un bouquin qui s'appelle « Le maître du Shabbat ».
J'avais un deuxième aspect.
Il y a peut-être d'autres questions aussi.
C'était rapide.
Oui, rapide.
Simplement, quand vous avez parlé de l'ascétie d'Adam devant Ève,
oui.
J'ai constaté dans ma vie et dans les Écritures que la seule chose qui ne soit pas pardonnée dans la Bible, par Dieu, c'est la faiblesse. vous avez dénoncé celle d'Adam, et je vois Élie, c'est un mot, pas le Élie du prophète, mais le Élie de la mère de Samuel.
De Samuel, oui.
L'Élie de Adam. Et qui, il n'a pas su élever ses enfants. Du conneries,
il conneries. Est rejeté.
Lorsqu'on vient lui annoncer la mort de ses enfants, il tombe à la renverse, il meurt. Mm. Et dans ma vie, j'ai observé que des gens qui étaient de véritables donneurs universels, qui auraient pu faire le bonheur de je ne sais pas combien de femmes, avaient le défaut d'être faibles, et que la justice, là, pour le coup, est terrible vis-à-vis des faibles, à mon avis, dans les Écritures.
Oui, il faut faire une exploration plus approfondie, mais c'est souvent
vrai. Je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé votre exposé remarquable de clarté dans un sujet qui n'est pas très simple.
Qui peut susciter la colère.
Mais qui est une bonne réaction.
À l'occasion, oui.
Donc, j'ai une question, parce que là, on parle de la colère par rapport aux autres. Moi, je voulais plutôt m'intéresser sur la colère par rapport à soi-même.
Oui.
Ça comporte... parce que finalement, si colère et jugement sont indissociables, ça revient donc à dire qu'on se juge soi-même.
Oui.
Et donc, peut-être que ça pourrait être intéressant de le voir en perspective du péché.
Oui.
Parce que là, c'est clairement un péché, je pense, de se juger soi-même.
Oui.
On se prend pour Dieu, finalement. Parce que c'est ça le...
C'est d'abord une faute de logique, là aussi. Hein? C'est que... Vous comprenez que on ne peut pas être jugé parti. Ça, c'est connu de tous. Donc, nous ne pouvons pas porter un bon jugement sur nous-mêmes. Il n'y a que les autres qui nous jugent bien. En général, on trouve l'inverse. Mais moi, j'ai la chance, j'ai beaucoup d'amis que je trouve qui me surestiment. Alors, j'en suis ravi et étonné, parce que je porte aussi un jugement sur moi-même, mais il est plutôt dépréciatif. Ce qui est une erreur. On doit ni en plus ni en moins. En fait, on ne peut pas se juger. Qu'est-ce que nous sommes? Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Nous devons laisser ce jugement à Dieu. Il n'y a que lui qui sonde les reins et les cœurs. Non seulement des autres, mais des nôtres aussi. Voyez. Et donc, qu'est-ce que valent mon cœur et mes reins? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et nous ne devons pas nous juger nous, les uns les autres sur ce domaine-là. Sur quoi peut porter avec justesse notre jugement? Sur des actes objectifs. Quelqu'un qui a cassé une vitre, c'est mon exemple, une vitrine, il a commis objectivement un mal. Il faut que ce soit réparé. Point. Alors après, il y a des choses plus subtiles, évidemment. Mais, pour reprendre, nous commettons beaucoup d'erreurs qui suscitent la colère des autres, par faiblesse, effectivement. Parce que nous ne sommes pas intervenus. Par exemple, nous vivons dans des sociétés iniques. Alors, je vous explique pourquoi. Je ne fais pas de politique, ce n'est pas mon problème. Mais nos sociétés sont iniques au niveau de leur structuration juridique. Comme il y a des juristes dans la salle, j'espère que je ne vais pas susciter leur colère. C'est que d'où peut venir le droit ?